aujourd'hui et il est 6h. Maintenant, on peut y aller. Nous sommes sur les routes de la région. Le trafic est fluide, Stéphane. La météo pour aujourd'hui?
Eh bien, ça va être une météo bien douce encore, jusqu'à 17-18 degrés attendus, mais il y aura davantage de nuages qu'hier.
Et Stéphane, d'abord, l'Éducation nationale publie une série d'indicateurs pour aider parents et élèves à mieux s'orienter.
On y trouve le taux de mention au bac, la valeur ajoutée de l'établissement, c'est-à-dire comment il va attirer vers le haut des élèves qui pouvaient être en difficulté en arrivant en seconde, mais qui vont finir par obtenir leur précieux diplôme. Alors, autre indicateur, c'est le taux de réussite au baccalauréat qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. On sait, les établissements, pour certains, sélectionnent leurs élèves, ce qui explique notamment que nombre de lycées privés arrive en tête, Odile Senella.
Pour ce qui est des lycées généraux et technologiques de la région, ils sont 21 affichés 100% de réussite au bac, l'an dernier tous des lycées privés. On peut citer le lycée privé de Marc, à Marc-en-Barœul, à côté de Lille, et le lycée bilingue Janine Manuel, également à Marc-en-Barœul. Ils ont tous les deux les meilleurs pourcentages de mention au bac, 97%. On peut aussi citer parmi les établissements qui cumulent les bons indicateurs, le lycée de Portère à Hasbrouck, ou encore le lycée Nazareth à Boulogne-sur-Mer. Et puis les lycées publics ne déméritent pas, ils sont par exemple 8 à afficher 99% de taux de réussite au bac. En revanche, le lycée public Émile Zola de Wattrelos, près de Roubaix, arrive bon dernier avec 71% de taux de réussite. Pour ce qui est des lycées professionnels cette fois, seul le lycée privé La Salle à Lille affiche 100% de réussite au bac, suivi des lycées privés Saint-Joseph à Hasbrouck et Jean Bosco à Guine. Et là, c'est le lycée des Plaines du Nord à Grande-Synthe qui affiche les plus faibles taux de réussite au bac avec seulement 49%.
Et vous retrouvez sur francebleu.fr l'ensemble de ces indicateurs de résultats des lycées. 900 à 2000 personnes dans les rues de Lille hier pour réclamer des hausses de salaire dans la fonction publique. On a compté également 500 manifestants à Arras, 150 à Cambrai. À Calais, collectifs et syndicats d'infirmiers libéraux ont été reçus par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie. Après une opération escargot sur l'A16, ils demandent des revalorisations des actes médicaux. Une nouvelle journée d'action est d'ores et déjà prévue. Ce sera à Paris le 4 avril.
Et une condamnation disciplinaire pour un pédiatre de l'Audomarois.
Ce praticien avait pratiqué en 2022 un examen gynécologique sur la mère d'un bébé soupçonnant une infection d'origine vaginale. Il n'en avait ni les compétences ni le matériel, a estimé le conseil de l'ordre des médecins, qui l'a donc sanctionné. La mère a par ailleurs déposé plainte devant la justice, qui est toujours en cours d'instruction. Cette plainte, tout comme 3 autres plaintes provenant d'autres patientes, ce médecin est placé déjà sous contrôle judiciaire et il était également déjà suspendu suite à une décision du tribunal de Boulogne-sur-Mer, suspension pour au moins 3 ans. 7 mois après la disparition d'Émile, 4 ans dans les Alpes-Maritimes, le profil du grand-père de l'enfant pose question. Le Canard enchaîné révèle que cet homme, prénommé frère Philippe, a exercé à l'institution religieuse de Riaumont à Liévin dans les années 90. Selon des témoignages recueillis par une journaliste, il terrorisait les élèves, leur infligeant des coups, également des massages douteux. 11 personnes sont mises en examen dans cette affaire de Riaumont jusque-là. Dans le Montreuil, un ouvrier a chuté de 4 mètres depuis un échafaudage hier matin à Saint-Josse. Il a été transporté par hélicoptère en urgence absolue vers l'hôpital de Montreuil, rendu flic.
Et puis Stéphane, les syndicats agricoles ont fait preuve de leur impatience face à Gabriel Attal.
La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont été reçus hier par le Premier ministre. Ils ont détaillé les 5 dossiers prioritaires, selon eux, sur lesquels le gouvernement doit avancer, notamment l'élevage, les pesticides ou encore la ressource en eau. La Confédération paysanne n'était pas convié à cette réunion. C'est pourtant le 3e syndicat agricole français. Il défend, lui, la mise en place de prix planchers pour garantir une rémunération minimum aux agriculteurs, notamment dans la filière bio, comme Estelle France, secrétaire générale du syndicat et maraîchère à Campignol-les-Grandes, c'est dans le Pas-de-Calais.
En fait, quand on fait du maraîchage, il y a beaucoup de travail manuel qui peut pas être mécanisé. Donc cette charge salariale, elle prend du poids sur les charges. Ensuite, on fait des emprunts au moment de notre installation. On a acheté des serres, un certain nombre de choses pour travailler dans des bonnes conditions. Et donc ça, on doit rembourser des prêts par rapport à ça. Donc ça fait une grosse partie. Et après, au niveau des entrées d'argent, c'est toujours délicat parce qu'en fait, on est obligé de vendre nos légumes à un prix qui puisse être rémunérateur pour nous, et donc ça fait des prix très élevés que moi-même je pourrais pas me payer mes propres légumes en fait, donc ça exclut toute une partie de la population. On a une filière de niche quoi, en fait on va aller chercher vraiment le haut du panier de la population, mais au bout d'un moment il y a un plafond de verre qui fait que on a déjà les bonnes personnes qui ont le bon pouvoir d'achat, on va pas pouvoir baisser le prix pour que ça puisse être accessible à d'autres.
Des propos recueillis par Hélène Fromanti. Quel quelle agriculture défend la Confédération paysanne? La réponse tout à l'heure d'Antoine Gomel, c'est son porte-parole dans la région. Il sera notre invité à 7h45. Vous savez quoi? 5 chevreaux viennent d'arriver à la ferme pédagogique Vernalde, à Coutquerque-Branche, c'est près de Dunkerque. C'est un lieu où on recueille régulièrement des animaux abandonnés ou promis à l'abattoir. C'était le cas de ces chevreaux. Reportage à 6h15. Et puis sur francebleu.fr, vous pouvez voir déjà les images de ces petits animaux. Trop mignons, nous dit Alice Marot, qui a réalisé ce reportage. On l'écoutera dans 10 minutes. Dans le Pas-de-Calais, 26 communes du bassin minier s'unissent pour permettre aux habitants de partir en vacances. L'objectif, c'est qu'elles soient 10 000 cet été à bénéficier d'un nouveau dispositif. Les communes et la communauté de communes de Lens-Liévin vont les aider à solliciter en fait des dispositifs d'aide qui existent déjà mais qui ne sont pas toujours activés. Le député communiste d'Avion, Jean-Marc Tellier, compte même en faire une loi aidée par Patrick Kanner, le sénateur PS du Nord. Un nouvel envol pour l'aérodrome de Merville, un nouveau hangar est en construction pour développer l'aviation de tourisme. Il y aura aussi un appartement au-dessus pour y passer la nuit sur le modèle d'Airbnb. Un projet d'hôtel est également dans les cartons.
Alors justement, il aimait avoir la tête en l'air. L'ancien animateur de télévision Sylvain Augier nous a quittés.
Il est mort hier à l'âge de 68 ans, présentateur de plusieurs émissions phares de France 3, excusez-moi, né dans les années 90. Alors c'était Faut pas rêver, c'était la carte au trésor qui réunissait en fait ses deux passions, les voyages et l'aéronautique. Finalement logique pour celui qui était né dans la région toulousaine, Mathieu Ferry.
Oui, notamment grâce au livre qu'il dévore quand il est enfant. Parce qu'à la maison, dans le village de Forgues, près de Rium, il n'y a pas la télé. Alors dans ses lectures, il y a des avions Bogdani, mais aussi Mermoz et Saint-Exupéry. Sylvain Augier le raconte à Thierry Hardisson.
Bah, c'est la ville de la postale, Toulouse. Ouais. Donc, moi, j'ai rêvé de voler quand j'étais enfant. J'ai effectivement lu le Petit Prince, Vol de nuit, ouais. Les aventures de Guillaumet dans les Andes, les grands auteurs de la postale, quoi, les grands pilotes. Quoi.
Et le voyage, il y vient très vite. Après son diplôme à Sciences Po Toulouse, il part en coopération au Nicaragua pour son service militaire. Il en revient avec le désir d'être journaliste. D'abord la radio, France Inter, puis la télé, avec le point d'orgue en 1990, l'arrivée de Faut pas rêver.
Bonsoir, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le voyage, qui n'a pas envie de partir voyager?
Grand succès sur France 3, il enchaîne avec un autre, la carte au trésor, un jeu d'énigmes à la découverte des départements de France en hélicoptère. Mais Sylvain Augier, c'est aussi une vie de souffrance. Il frôle l'amputation d'une jambe en 88, après un accident de parapente dans les Hautes-Pyrénées. Il devient ensuite accro à la morphine. Il cache aussi longtemps ses soucis mentaux, sa bipolarité. Dans un livre paru il y a 6 mois, il raconte sa renaissance. Le titre, Je reviens de loin.
La billetterie ouvre cet après-midi pour la demi-finale de Coupe de France de football entre Valenciennes et Lyon. Le match se jouera le 2 avril au Groupama Stadium. La direction du club qui poursuit par ailleurs ses discussions avec les SNCF pour permettre à 500 supporters de rejoindre la capitale des Gaules en train. Les basketteurs français connaissent leurs adversaires du tournoi olympique qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Le tirage au sort avait lieu hier. Les Bleus se retrouveront dans le groupe du Japon et de l'Allemagne, des équipes à leur portée. Donc le quatrième qualifié sera désigné à l'issue du tournoi pré-olympique entre la Lettonie, le Brésil et le Monténégro. Et puis les basketteuses françaises, elles, retrouveront dans leur groupe le Canada, le Nigeria et l'Australie.